VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h30 en temps universel, 15h30 ici à Washington. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 5 septembre 2017. Et Kavadou avec vous en direct du studio 9 de VOA Afrique. Au sommaire de ce journal, plein feu sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 avec Nicolas Pineau. Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga pose des conditions pour sa participation à la présidentielle au nouveau scrutin du 17 octobre. Et puis quelques jours après le nouvel essai nucléaire exécuté par la Corée du Nord, les réactions continuent d'affluer. Et puis ici, aux États-Unis, le président Donald Trump avait promis de durcir le ton en matière d'immigration. Il vient de supprimer le programme protégeant le statut de centaines de milliers de jeunes sans-papiers. Nous retrouverons bien sûr Blanche Sanou pour la Minute Éco, mais tout d'abord, le journal. Actualité sportive oblige, nous démarrons cette édition du Monde Aujourd'hui par les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2018. Nicolas Pineau est avec nous pour faire le point. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Akia, bonsoir à tous.
Alors, match décisif sur le continent dans la course au Mondial 2018 en Russie.
Et oui, dans le groupe A, après sa victoire 2-1 à l'aller, la Tunisie en déplacement à Kinshasa pour affronter les Léopards qui n'avaient pas le droit à un faux pas. Eh bien, les Congolais avaient pourtant bien commencé. Ils menaient 2-0 après l'ouverture du score de Chancel Bemba en première mi-temps. Puis Mpoku double la mise en seconde période. Oui, mais voilà, patatrac, coup de tonnerre en 2 minutes. Les Tunisiens ont réussi à refaire leur retard. D'abord par Ben Amor, puis par Badri. Match nul, 2-2. C'est le score final, un score qui n'arrange pas les Congolais. Dans le groupe D, la manche retour à Ouagadougou entre le Burkina Faso et le Sénégal. Bertrand Traoré a ouvert le score pour les étalons avec un but inscrit dès la 9e minute au stade du 4 août. Mais voilà, Ismaël Lassar pour les Sénégalais a permis de réduire le score, un partout en deuxième mi-temps. L'Afrique du Sud qui chute à nouveau contre le Cap-Vert, une défaite 2-1 à domicile contre les Requins Bleus. Et puis dans le groupe C, c'est la grosse surprise de la soirée, la Côte d'Ivoire qui n'y arrive pas malgré un Gabon réduit à 10. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont battus à Boaké 2-1. Les buts gabonais signés Meyen Bendong et Lemima, Maxwell Cornet avait réduit le score pour les éléphants, mais les éléphants qui sont donc battus à domicile. Et puis on va parler également de l'élimination des Diables Rouges du Congo. Les Diables Rouges battus 5-1 à domicile ce soir au stade municipal de Kintele. Le bourreau s'appelle le Ghana et Thomas Partey, auteur d'un triplé pour le joueur de l'Atlético Madrid. Et puis les deux premiers du groupe, eux, l'Égypte et l'Ouganda qui s'affrontent à Alexandrie. Les Égyptiens mènent 1-0. Et puis le coup d'envoi a été donné à Bamako, le Mali, qui va tenter de laver l'affront face au Maroc. La défaite 6-0 à l'aller. Et puis dans le groupe B, l'Algérie pour l'honneur à Constantine face à la Zambie.
On joue aussi en Europe ce soir.
Après la démonstration espagnole contre l'Italie ce week-end, la Roja se déplace au Liechtenstein. L'Italie accueille Israël. La Turquie face à la Croatie. Les deux premiers du groupe D, Irlande-Serbie. Et puis en Asie, la Corée du Sud s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2018. Après son match nul 0-0 en Ouzbékistan, elle rejoint l'Iran et le Japon. La Chine a battu le Qatar, mais elle est éliminée 2-1. Et puis la Syrie qui s'est qualifiée pour les barrages grâce à son match nul contre l'Iran, 2-2.
NBA, championnat de basket nord-américain, les Rockets de Houston changent de propriétaire.
Ils ont été rachetés par le milliardaire américain Tilman Fertitta pour 2,2 milliards de dollars, un montant record pour une franchise NBA. L'actuel propriétaire l'avait acheté 85 millions de dollars en 1993. Depuis, Houston a remporté 2 titres en 94 et 95. Ils comptent sur leur meilleur joueur James Harden qui va toucher, tenez-vous bien, en 6 ans. 228 millions de dollars. Et le transfert record de cet été, c'était également Chris Paul qui arrive en provenance des Los Angeles Clippers.
Merci beaucoup Nicolas. Dans le reste de l'actualité, 3 morts en RDC, c'est le bilan d'une attaque menée la nuit dernière contre 2 villages près de la frontière avec la Zambie. Cette attaque, dont les auteurs ne sont pas encore identifiés, a occasionné la fuite des populations vers la Zambie. Le point avec notre correspondant Narval Mabila.
C'est depuis 4 heures du matin de ce mardi 5 septembre que le village Kibango, situé à 15 km d'Mpweto et 12 km du village Lukinda, qui est la frontière entre la Zambie et la RDC, a été attaqué par des hommes armés non autrement identifiés. Et les armes y ont retenti pendant plusieurs heures. Nous sommes à Mpweto où un habitant nous donne son témoignage sous anonymat.
C'est à 4 heures du matin vers Lukinda, 4 heures du matin à la frontière. Hein. Il y avait quelques éléments qui sont venus là-bas commencer à tirer des balles. Ils ont tué un policier en air. Et après, ils ont cassé des chaises. Après tout, ils ont parti à Bolio, direction inconnue. Les soldats, lorsqu'ils sont venus, commencent à tirer des balles. Jusqu'à présent, maintenant, pour ce moment, c'est calme. Mais beaucoup de gens sont partis à Zambie.
Le gouverneur Pandekapopo est injoignable. Des sources sécuritaires nous renseignent que l'armée a repris les contrôles dans la journée. Un calme précaire est observé et on annonce l'arrivée du ministre de la Défense à Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Deux casques bleus ont été tués, deux autres grièvement blessés ce mardi lorsque leur véhicule a heurté une mine ou un engin explosif dans le nord-est du Mali. C'est ce qu'a annoncé la mission de l'ONU dans le pays. La MINUSMA condamne fermement ces actes terroristes destinés, selon elle, à paralyser les opérations et la mise en œuvre du mandat de la mission. Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga pose des conditions pour sa participation à la présidentielle du 17 octobre, date choisie par la commission électorale après l'invalidation du scrutin d'août. Blanche Sanou.
Raila Odinga a engagé mardi les hostilités autour de la date de la nouvelle élection présidentielle. Depuis l'invalidation par la Cour suprême pour irrégularité de l'élection du 8 août, le vétéran de l'opposition, âgé de 72 ans, ne cesse de s'en prendre à la commission électorale. Il n'y aura pas d'élection le 17 octobre, sauf à ce que les termes et conditions que nous avons énumérés dans ce communiqué soient remplis par l'UEBC, a-t-il prévenu. Monsieur Odinga reproche à la Commission d'avoir choisi la nouvelle date unilatéralement. Il a ensuite listé ses desiderata, parmi lesquels un audit du système électronique de l'IEBC, la démission de plusieurs de ses membres et la possibilité pour toute personne éligible de se présenter à la nouvelle élection. Le président Kenyatta a exclu que l'IEBC soit remanié en profondeur. La Cour suprême doit publier d'ici au 22 septembre les motivations de son jugement. L'UEBC a soumis ses attentes quant à cette date pour savoir ce qui lui est exactement reproché et quelle amélioration elle doit apporter pour la prochaine élection. La proclamation de la victoire de M. Kenyatta le 11 août avait été suivie de violences qui avaient fait au moins 21 victimes, pour la plupart tuées par la police dans des bastions de l'opposition dans l'ouest du pays et à Nairobi.
Boko Haram continue de mener la terreur dans le nord-est du Nigeria. Hier, les djihadistes du groupe ont tiré sur des agriculteurs dans leur plantation. 4 personnes ont perdu la vie. La rébellion de Boko Haram, qui dure depuis 8 ans, a provoqué la mort de quelques 20 000 personnes, près de 2,6 millions de déplacés et une terrible crise humanitaire. Toujours dans l'état du Borno, le gouvernement nigérian et les ONG se mobilisent et multiplient les mesures d'assainissement et de sensibilisation pour empêcher la propagation de l'épidémie choléra. Selon les autorités, 21 personnes sont décédées des suites du choléra. Le nombre total de cas suspectés est désormais de 375, rien que dans la ville de Maiduguri, capitale du Borno et épicentre également de l'insurrection djihadiste de Boko Haram. L'autorité du bassin du fleuve Niger, appelée ABN, vient de lancer une alerte sur les risques d'inondation à Niamey, la capitale du Niger, où des pluies torrentielles ont déjà fait 17 morts depuis juin dernier et plus de 70 000 sinistrés dans tous les pays. Selon les services météorologiques, il est tombé à Niamey près d'1,40 m d'eau en date du 15 juin, du jamais vu depuis 1905. L'opposante rwandaise Diane Rwigara a été arrêtée hier, interrogée puis relâchée selon la police qui parle d'enquête fiscale. Sa famille et son parti dénoncent une mise en scène visant à camoufler une détention illégale ayant duré une semaine. Madame Rwigara avait tenté en vain de se présenter à la présidentielle du 4 août, remportée avec près de 99% des voix par le sortant Paul Kagame. Le chef d'état-major de l'armée du Lesotho, le général Tsotso, a été abattu ce mardi au cours d'une fusillade survenue dans une caserne du pays où l'armée exerce une forte influence sur la vie politique. Deux autres officiers supérieurs ont été également tués lors de cet échange de coups de feu dans la capitale Massourou. Cet incident intervient 3 mois après les élections qui ont porté au pouvoir le premier ministre Thomas Tabane.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Quelques jours après le nouvel essai nucléaire exécuté par la Corée du Nord, les réactions continuent à se faire entendre. Mardi, c'est Vladimir Poutine qui a, après avoir condamné l'essai, fermement mis en garde contre une hystérie militaire face au régime de Kim Jong-un.
Suite à ce sixième essai nucléaire de Pyongyang, le plus puissant à ce jour, les États-Unis et leurs alliés européens et japonais ont annoncé lundi négocier de nouvelles sanctions sévères à l'ONU contre la Corée du Nord, mais la position de Pékin et Moscou, dotée de droit de veto, restait incertaine. Depuis la Chine, où il a assisté au sommet des puissances émergentes des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le président russe Vladimir Poutine a condamné ces exercices de la Corée du Nord, qu'il a qualifié de provocation. Il a estimé en revanche qu'une réponse militaire pourrait aboutir à une catastrophe planétaire. Une position qui semble rejoindre celle défendue par Pékin, qui préconise une résolution pacifique. Donald Trump a jugé que désormais, tout discours d'apaisement ne fonctionnera pas et menacé le pays reclus d'une réponse militaire massive au cas où il menacerait leur territoire ou celui de leurs alliés. De son côté, la Corée du Sud a, dès lundi, lancé des manœuvres terrestres et maritimes à tir réel dans l'espoir de dissuader Pyongyang de toute provocation.
Ici, aux États-Unis, le président américain Donald Trump a décidé de supprimer le programme mis en place par son prédécesseur, Barack Obama, en vue de protéger des centaines de milliers de jeunes sans-papiers d'une expulsion et de leur permettre d'étudier et de travailler aux États-Unis. Bagassi Koura.
Trump ne s'est pas personnellement exprimé sur cette décision, mais a laissé son ministre de la Justice, Jeff Sessions, monter en première ligne. À compter de ce jour, aucune nouvelle demande ne sera examinée. Le sort des quelques 800 000 personnes connues sous le nom de Dreamers, qui bénéficient déjà de ce statut, ne sera pas affecté, du moins jusqu'au 5 mars 2018, de l'aide de 6 mois accordée par l'administration pour que le Congrès légifère sur cette question. Un compromis au Congrès sur un sujet qui divise Washington depuis des années apparaît cependant loin d'être acquis. En 2012, Obama avait mis en place par décret le programme DACA, en anglais « Deferred Action for Childhood Arrivals » afin de faire sortir de l'ombre les enfants arrivés illégalement aux États-Unis avec leurs parents, pour la plupart en provenance d'Amérique latine.
L'ouragan Irma menace les Antilles françaises, Haïti et la Floride. Ces zones sont en situation d'urgence et d'alerte maximum. Irma est devenue un ouragan extrêmement dangereux de catégorie 5, la plus élevée dans la classification de ces phénomènes, a annoncé le Centre américain des ouragans. Les préparatifs en vue de son arrivée s'accélèrent. La trajectoire est encore incertaine, mais plusieurs projections placent sur son passage Haïti, la République dominicaine et Cuba. L'ouragan pourrait atteindre vers la fin de la semaine la Floride, puis éventuellement d'autres parties de la côte est des États-Unis, pays qui se remet à peine du passage dévastateur d'Harvey. Par notre âme, par notre sang, nous nous sacrifierons pour toi, Syrie, ont scandé les officiers assiégés, libérés par l'armée syrienne, dans la zone gouvernementale de Dahir Ezzor, dans l'est du pays. Une grande victoire pour l'armée qui a brisé le siège du groupe État islamique imposé à cette ville depuis plus de 2 ans. C'était la dernière encore aux mains des djihadistes. Le chef du comité international de la Croix-Rouge a rencontré le chef du Hamas à Gaza. Première étape d'une visite de 3 jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Peter Maurer s'est entretenu avec Monsieur Sinwar, désigné en février à la tête du mouvement islamiste qui dirige la bande de Gaza depuis 2007 et a rencontré des représentants de la société civile. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
Panne d'essence dans les stations-service en RD Congo. À Kinshasa, la plupart des stations étaient fermées hier. D'après l'AFP, les compagnies pétrolières et le gouvernement négocient pour désamorcer cette crise d'approvisionnement en carburant, conséquence de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar. Le ministre de l'économie, Joseph Kapika, annonce qu'une commission d'experts proposera des solutions sans évoquer une possible hausse du carburant à la pompe. Le Nigeria renoue avec la croissance, une première depuis plus d'un an. Son économie, entrée en récession en août 2016, a progressé au deuxième trimestre cette année de 0,55%. La production pétrolière, qui avait chuté en raison d'attaques rebelles sur les infrastructures d'hydrocarbures dans le delta du Niger, est remonté grâce à des accords d'amnistie avec les groupes armés. Les autres facteurs de croissance incluent l'agriculture, le commerce et l'industrie énergétique. L'Afrique du Sud connaît également la croissance à nouveau. Son économie enregistré au deuxième trimestre, une hausse du produit intérieur brut de 2,5% par rapport au premier trimestre de l'année. Le pays le plus industrialisé du continent africain était entré en récession plus tôt cette année. Les principaux contributeurs à ce rebond sont l'agriculture et la pêche, les secteurs financiers, de l'immobilier et des mines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par Ekia Badou. Cap à présent au dossier du jour et on commence par les États-Unis où l'avenir de quelques 800 000 immigrants est incertain. Le président Donald Trump a mis fin au programme de Barack Obama qui permet à des centaines de milliers de jeunes sans-papiers d'étudier et de travailler sur le sol américain. Le Congrès doit trouver un compromis avant le 5 mars 2018 pour légiférer et préserver leur statut. Au contraire, ils risquent l'expulsion du pays. Eric Manarakiza a joint à New York l'activiste pour la défense des droits des immigrants, Bakary Tandja.
C'est l'incertitude totale. Après tant d'hésitations, finalement, Trump a, par la voix de son ministre de la Justice, fait connaître sa position sur DACA, qui est le décret qui a été signé par président Obama en 2012. Pour permettre à peu près 800 000 jeunes qu'on appelle « dreamers » à pouvoir bénéficier d'un statut légal leur permettant de travailler, se prendre en charge et faire leur contribution au développement économique de l'Amérique.
Trump laisse quand même une marge de manœuvre pour que le Congrès puisse agir.
Non, ça c'est fuir ses responsabilités, il faut prendre le taureau par les cornes, ça ce n'est pas du tout une solution, c'est créer davantage de confusion au sein de la communauté. Bon, on sait que la procédure par laquelle on peut arriver à une réforme au niveau du Congrès est extrêmement complexe et le Congrès a énormément de choses sur son agenda. Et en plus, nous savons que au niveau de la Chambre des représentants, les républicains ont une majorité écrasante et c'est là-bas justement où des obstacles insurmontables vont être présentés. La meilleure solution, c'est de passer une loi pour régler définitivement la question, pour tout en sachant que cette décision n'aura jamais lieu.
Et si le Congrès ne protège pas leur statut, existe-t-il une autre issue?
Je sais que le gouverneur de New York a promis d'engager une plainte au niveau de la justice. Bon, et en plus, au niveau des républicains, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre l'élimination de DACA. Donc, il n'est pas du tout justifié parce que, réalistiquement parlant, ces jeunes ne sont responsables d'aucune faute. Ils sont venus ici, ils ont été amenés ici aux États-Unis par leurs parents, dans leur majorité écrasante. Bon, ils ne connaissent rien de leur pays d'origine. Certains ne parlent même pas les langues de leur pays. Ils ont grandi ici, ils sont de facto des Américains. La seule différence est qu'ils n'ont pas ce papier légal disant qu'ils sont des citoyens. Même hier, au niveau de CNN et beaucoup de chaînes de télévision, ils ont interviewé des jeunes qui ont fini leurs études soit à Columbia ou à Harvard. Bon, il y a même un qui est actuellement en première année de droit après sa formation à Harvard University. Bon, donc, ce ne sont pas des personnes qui vont être à la charge publique et le pays a besoin de leurs compétences. Donc, c'est totalement un non-sens de le faire. Le principe de base de la justice, on ne peut pas punir quelqu'un pour des fautes commises par une autre personne, même si ces personnes-là sont leurs parents.
À New York, Bakary Tandja au micro d'Eric Manarakiza.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les retombées non seulement pour le Kenya, mais aussi pour toute l'Afrique, du verdict historique de la Cour suprême kenyane qui a annulé la réélection d'Uhuru Kenyatta pour irrégularité. Les juges kenyans ont-ils ainsi prouvé leur totale indépendance du pouvoir politique? Peut-on imaginer pareil jugement dans d'autres pays africains où les élections sont contestées? Dans quelles conditions le nouveau scrutin va-t-il se tenir au Kenya? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
L'autorité du bassin du fleuve Niger a lancé aujourd'hui une alerte sur des risques d'inondation dans la capitale du Niger, Niamey, où des pluies torrentielles ont déjà fait 17 morts depuis juin. Des inondations qui touchent plusieurs régions du Niger, comme en témoigne l'assistante au programme environnemental du PNUD Niger, Salamatou Ima Mounkaïla.
Il y a beaucoup de pluies présentement. Actuellement, il pleut beaucoup à Niamey. Comme c'est la saison pluvieuse, plus précisément en août, vous savez, il pleut beaucoup ici. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'inondations.
Parlez-moi un petit peu de la situation à Takoro. Est-ce qu'il pleut également là où vous êtes?
Bien sûr, il pleut beaucoup là-bas. Parfois, il pleut beaucoup tellement que les maisons tombent et c'est difficile de sortir sous la pluie. Bon, au Niger, comme nous, naturellement, on n'est pas habitué à beaucoup de pluie. Donc, quand il pleut, les gens ne sortent pas ici. Parce que nous, on n'a que 3 mois de saison pluvieuse en tout dans l'année.
Alors, vous êtes spécialiste du changement climatique. Est-ce que pour vous, il s'agit juste d'une saison complètement normale ou est-ce que le réchauffement climatique entraîne plus de pluies torrentielles et plus d'inondations?
Voilà, c'est clair que c'est dû au changement climatique parce que ça fait quand même quelques années que ce n'est pas la même situation qui s'est passée ici. Au Niger et partout d'ailleurs à l'intérieur du pays.
Qu'est-ce qui a changé?
Et ça a changé parce que là, durant la saison pluvieuse, les 3 mois où il pleut ici abondamment, il pleut beaucoup, il y a des inondations, il y a des torrents, il y a plusieurs catastrophes, quoi. Il y a même des noyades, tout ça dans l'eau. Et le fait que les maisons sont détruites aussi.
En plus,
quand il fait chaud aussi, il y a un changement, il fait très chaud ici. Au Niger. Là, il fait plus chaud, et les pluies sont rares et quand les pluies viennent, c'est des pluies diluviennes.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour essayer de contrer ces inondations, à votre avis?
Moi, je pense que pour contrecarrer ces genres de fléaux, il faut essayer de juste sensibiliser la population par rapport à ces genres de pluies-là. Déjà, nous, notre projet là-bas à Dakou, on a mis en place des pluviomètres. On apprend aux villageois à bien, c'est-à-dire à lire les millimètres de pluie qu'ils ont reçus et tout ça. Si quand il y a beaucoup de pluie, au moins, ils savent, ils peuvent nous communiquer. Il faut évacuer, il faut sensibiliser parce que on a toujours dit qu'on ne peut pas lutter contre les changements climatiques, mais on peut mettre en place des options d'adaptation, en fait. C'est-à-dire, on peut aider la population à s'adapter. Mais on ne peut pas carrément empêcher ce changement-là.
Au micro de Claire Morin-Gibourg, Salamatou Ima Mounkaïla, assistante au programme environnement du PNUD Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
La Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi, dans son rapport sorti lundi, a affirmé que des crimes contre l'humanité ont été commis depuis mai 2015. Elle demande qu'une enquête soit menée par la Cour pénale internationale pour connaître les commanditaires de ces crimes. Le pouvoir en place nie toutes ces allégations, estimant qu'aucune enquête n'a été menée sur place au Burundi. Notre correspondant Christophe Nkurunziza a tendu son micro à des habitants de la capitale, Bujumbura.
Février des Nations Unies. Oui, les enquêtes préliminaires doivent commencer d'ici peu parce que ces crimes continuent même à ce moment que je vous parle. J'ai un ami qui a été kidnappé au niveau de Kamenge par les services de la CNR, le Service National de l'Enseignement. On ne sait jamais où il est emprisonné pour le moment. Vraiment, ce sera mieux que ces crimes soient punis.
Je pense qu'il faut vraiment faire des enquêtes parce qu'il y a eu des crimes comme ça. Nous avons vu des gens tués, morts. Même jusqu'à maintenant, il y a des disparitions. On ne sait pas si on les tue ou on les met où. Mais cette enquête doit être faite. Nous avons besoin de ça. Et nous avons soif de voir, d'avoir une réalité des faits. Parce qu'il y a des gens qui nient ça, mais d'après ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, ça a été fait. Nous demandons l'urgence de faire cette chose.
Mais écoute, je ne suis pas là pour confirmer ou infirmer ce qu'ils ont dit sur le fait qu'il y aurait eu des crimes contre l'humanité ou pas. Mais bon, on était tous au pays, il y a eu des crimes qui ont été commis par les uns et par les autres. Et si la Commission des droits de l'homme des Nations Unies arrive jusqu'à demander aux Nations Unies de diligenter une enquête, sûrement qu'il y a quelque chose qui s'est passé et ça ne peut que nous, ça peut que nous réconforter et finalement nous donner l'espoir que finalement tous les crimes qui ont été commis au Burundi seront un jour punis. Il faut que ça soit ainsi.
Un reportage de Christophe Kurunzinza à Bujumbura.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Rendons-nous à présent au Burkina Faso où l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou connaîtra une meilleure sécurité dorénavant. Foi du ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré a rencontré les principaux responsables d'affaires et de commerce de l'avenue commerçante pour en discuter. Des détails à Ouagadougou, avec notre correspondant Issa Napon.
Notre d'État Simon Compaoré a échangé avec les responsables des commerces situés le long de l'avenue Kwame Nkrumah autour d'un projet de renforcement sécuritaire. Après deux attaques en 19 mois en plein centre de la capitale, il fallait un ministre combatif pour dérouler une nouvelle stratégie dont le but ultime, rappelle-t-il, est de protéger de cette célèbre avenue.
Pour rien au monde, nous n'allons nous laisser faire avec l'action des terroristes. Alors nous avons pris des dispositions. Quand vous irez sur Kwame Nkrumah, vous verrez. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. C'est des mesures pérennes et vous pouvez le constater de nuit comme de jour. Beaucoup d'améliorations vont être faites sur cette voie. Et toutes ces améliorations qui vont faire que, au lieu de fuir Kwame Nkrumah, on va accourir vers Kwame Nkrumah. C'est vrai, nous avons déploré des morts. Mais comme partout ailleurs, nous n'allons pas nous laisser abattre par cela. Et on est satisfait parce qu'on a bien échangé. Nous comptons sur leur implication. La qualité de la sécurité va beaucoup s'améliorer sur cette voie.
Quel nombre d'hommes, quel dispositif exact, des questions éludées par le ministre en charge de la sécurité qui est resté très discret sur les détails d'une stratégie dans laquelle l'on sait que nombre d'entre les hommes envoyés sur le terrain seront fondus dans la masse des civils qui fréquentent l'avenue et cela pour le long terme. Sur la situation du départ des Peace Corps américains du Burkina pour questions sécuritaires, la réaction vive du ministre Simon Compaoré résume à elle seule sa pensée.
Non. C'est une décision souveraine. Nous n'allons pas faire de commentaires. Nous disons seulement, nous remercions tous ceux qui sont là, étrangers qui sont là. Et j'envoyais encore ce matin, très tôt, sur Kwame Nkrumah, en train de prendre leur petit déjeuner. Eh bien, la vie va continuer. Et de plus belle, il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
Les participants à la rencontre ont partagé cette discrétion du ministre à l'image de Aboukini Pascal. Il affirme que le projet présenté par le patron de la sécurité intérieure devrait tenir la route.
Tout dépend de tout un chacun de nous, parce que nous devons quand même contribuer à la sécurité et nous devons contribuer également au développement. Donc ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de toute la population. Ça va de votre intérêt, ça va également de mon intérêt. Sincèrement, c'est tout ce que nous voulons, c'est la sécurité, parce que la sécurité est la mère de la paix. Et c'est ce que nous souhaitons et je crois qu'on a été satisfaits. Nous pourrons quand même dire merci aux autorités.
Le ministre de la Sécurité essaie d'apporter un début de réponse aux récriminations des révérends de l'avenue Kwame Nkrumah et du reste des citoyens sur l'absence de sécurité dissuasive dans les lieux de grosse fréquentation de la capitale, tels que l'avenue Kwame Nkrumah. Une avenue qui regagne peu à peu son animation quotidienne, trois semaines après un attentat qui jusque-là n'a toujours pas été revendiqué. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Lionel Gaïma. Bill Barber était à la console, à la présentation Ekia Badou. Merci infiniment pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Ouagadougou sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, Enfani FM. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.